Il est l'heure de retrouver Un moment pour la Terre, cette émission mensuelle préparée par France Nature Environnement. Et aujourd'hui, c'est donc son président Pierre Gottardi qui est ici pour nous parler de quoi ? Bonjour Pierre.
Bonjour Odile. En fait, aujourd'hui, on voulait reparler de nouveau de la Durance, puisque sur la Durance démarre une grosse réflexion qui s'appelle le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et donc, on voulait présenter un petit peu cette démarche qui démarre, puisque la commission locale de l'eau, le Parlement local de l'eau, a été installé en 2024. Voilà.
Et vous êtes accompagné aujourd'hui de Gilbert Ferraud.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et donc, vous êtes aussi administrateur à France Nature Environnement.
Exactement.
Et bien, c'est parti. C'est quand vous voulez.
Voilà. Et bien, on va essayer de faire un dialogue entre Gilbert et moi. Donc, je vais jouer les questionnaires. À toi, oui. Gilbert.
Et moi aussi, le questionnaire. Nous,
bien sûr.
Nous questionnons l'un l'autre.
Pas de problème.
Donc, nous allons parler de la Durance, effectivement, parce que c'est un sujet qui est important, d'autant plus important qu'il y a des choses qui se passent du point de vue évolution de nos climats, partout dans le monde bien sûr, mais avec des aspects particuliers dans notre région. Et la Durance, c'est une rivière, hein, puisque ça a été un fleuve, mais maintenant c'est une rivière, puisqu'elle se jette dans le Rhône. Et on est dans un contexte qui est particulier. Alors pourquoi particulier ? Parce que on est à la fois dans un domaine où on a une juxtaposition de climats différents, si on se trouve en amont ou en aval de la rivière, et avec des contrastes importants. Donc il convient de bien comprendre ce qui se passe et ce qui risque de se passer avec des évolutions climatiques qu'on connaît, qu'on va connaître, qui vont probablement s'amplifier. Et d'autre part, on a un contexte... Alors, bon, je vais avoir un langage peut-être qui est un peu orienté parce que j'ai été géologue dans une autre vie. Et donc, j'ai particulièrement conscience qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont que la conséquence d'une structure de géologie, et c'est particulièrement le cas pour la Durance. Hein. Par exemple, lorsque on est à la source de la Durance, qui est à 2400, autour de 2400 mètres d'altitude, hein, dans la région de Montgenèvre, vers Briançon, on a au niveau de sa source l'existence d'une croûte océanique, c'est-à-dire qu'on avait... Lorsqu'on monte à pied vers la source de la Durance, on est dans un océan ancien qui a 150 millions d'années. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on a un fond océanique maintenant qui se trouve à 2400 mètres d'altitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'est passé dans un temps qui est assez récent, pour l'échelle géologique, c'est rien, c'est quelques dizaines de millions d'années, on a une élévation, une poussée qui est extrêmement importante entre les continents africains et européens, qui fait qu'on a eu les Alpes qui se sont élevées, et donc on se retrouve avec un contexte qui est particulier, avec un dénivelé qui est très important, hein, puisque l'océan se retrouve maintenant à 2400 mètres d'altitude. Et donc, on a une pente qui est importante et entre la source et la confluence avec le Rhône. Donc, on a une caractéristique qui a son importance, qui est qu'on a une pente forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un problème de crue et de risque d'inondation qui n'est pas négligeable et qu'il va falloir examiner de près. Il y a eu des crues très importantes dans le passé, hein, au 19e siècle en particulier, puisque c'est là qu'on a des données qui commencent à exister. Donc ces crues importantes sont à surveiller, sont à analyser, et donc c'est déjà une problématique majeure. Ensuite, on a une géologie, j'y reviens, qui est particulièrement variée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que on descend le cours de la Durance, on va avoir des terrains qui vont être extrêmement différents les uns des autres, avec, par exemple, l'existence de réservoirs naturels de ressources en eau très importants, qui sont par exemple des réservoirs de calcaire, hein, où on a des, où se trouvent là les réserves, les ressources en eau les plus importantes. Donc il faut bien les identifier pour savoir où elles sont, quelle est leur vulnérabilité. Et on a d'autre part, par exemple, ce qu'on appelle ici les robines, les marnes, ce sont des terres noires, hein, qui sont d'âge jurassique ou crétacé, enfin, peu importe, et qu'on voit, quand on remonte vers Gap, on les voit très bien, par exemple. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a des orages, des pluies qui sont torrentielles, hein, des pluies très importantes, comme c'est le cas dans nos régions méditerranéennes, eh bien, le matériau qui est meuble va être emporté par l'eau et va donner à l'eau une puissance bien plus importante d'érosion. Et donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. C'est juste quelques exemples pour montrer qu'on doit bien connaître les caractéristiques de notre rivière. Bon, je m'arrête là pour le point géologique.
Non, mais je voudrais juste prolonger ton propos pour dire que effectivement c'est la géologie qui donne la morphologie de la rivière du haut en bas. C'est-à-dire que quand on a des roches tendres, on a effectivement le lit qui s'élargit, on a des zones d'expansion qui sont rongées éventuellement par les érosions. Et par contre, dès qu'on a des roches dures, on a des canyons. On a beaucoup d'endroits où la Durance, par exemple vers Saint-Clément, entre Saint-Clément et l'arrivée dans Serponçon, on a effectivement une circulation en canyon parce qu'on traverse des roches dures. Voilà. Quand on a le barrage, l'acclus de Sisteron, où pareil, elle passe dans un endroit extrêmement étroit, où on a aussi l'acclus de Bompa à Laval, qui est la dernière clue avant la plaine. Et donc ça, c'est bien lié directement à la géologie. Et donc la géologie engendre la morphologie de la rivière. Quoi. Voilà. Avec effectivement ce qu'a dit Gilbert, à la fois, donc, quand elle peut s'étaler la rivière, elle peut effectivement générer des nappes alluviales qui sont donc des stockages d'eau souterrains locaux, mais on a aussi la géologie qui stocke en interne, donc dans les massifs calcaires, qui peut constituer des grandes ressources. Donc ces caractéristiques-là, Gilbert l'a dit, eh bien, effectivement, on a un très grand bassin versant à l'amont de Serponçon, et donc du coup avec des fortes pentes, des géologies liées aussi à la présence de glaciers, donc des résidus qui sont facilement mobilisables, donc on peut avoir des très grosses crues, parce qu'il y a de la pente, donc on a la force de l'eau qui descend, qui peut emmener les cailloux.
En ce qui concerne la ressource en eau, la chose qu'il faut souligner, c'est que comme on a une géologie qui est compliquée, il faut bien cerner là où se trouvent les ressources en eau et là où la vulnérabilité risque d'être importante. D'autant plus qu'on va vers un climat qui risque d'être de plus en plus contrasté avec des périodes de sécheresse de probablement de plus en plus marquées. Et donc, cette vulnérabilité au niveau de la ressource en eau, la quantité d'eau, mais aussi le caractère de pollution de cette eau, parce que lorsqu'on a des débits importants, et c'est une des caractéristiques de la Durance, c'est que malgré qu'il y ait des pollutions locales, hein, qui sont identifiées en grande partie, on s'en sort bien au niveau de la Durance parce qu'on a des débits importants et qu'on a une dilution de ces problèmes de pollution. Mais attention, ça c'est vrai maintenant, parce qu'on a des débits importants, mais si on est dans des phases de débits qui sont beaucoup plus faibles, on risque d'avoir des problèmes qui surgissent et qu'on est en devoir d'appréhender et d'anticiper maintenant. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse à la Durance et qu'a démarré cette structure dont Pierre a parlé tout à l'heure.
Oui, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les deux facteurs quantité et qualité sont intimement mêlés. Et quand on a beaucoup d'eau, ben effectivement, elle est beaucoup plus propre. Les phénomènes auto-épuratoires dans la Durance se passent beaucoup plus. Quand on a moins d'eau, ben les polluants sont moins dilués et donc on les épure beaucoup moins bien, quoi. Et donc, que ce soit des pollutions chimiques liées à des produits phytosanitaires ou que ce soit des pollutions organiques liées aux stations d'épuration qui n'épurent jamais à 100%, hein, une station d'épuration, quand elle épure à 90%, c'est bien. Mais bon, compte tenu des points de concentration des populations liées aux stations de ski, ou aux populations estivales, eh bien effectivement, la diminution de la ressource en eau disponible pour diluer ces pollutions risque d'entraîner des dégradations de qualité.
Un autre point qu'on peut souligner, c'est par exemple, ça c'est un assez bon exemple, c'est le plateau de Valensole, où on a une vaste surface avec, donc, qui recueille une quantité de pluie importante. Ce sont des formations qui sont des poudingues, hein, relativement récents, et la dominante de cette formation géologique, c'est que ce sont des formations très perméables, très argileuses par endroits, mais globalement assez perméables. Et donc, cette eau qui tombe, cette eau de pluie, s'infiltre et en profondeur, elle va se diriger vers des parties aval, en eau souterraine, et donc va ressurgir à des endroits qu'il faudrait quand même arriver à identifier, parce que le jour où on a des baisses de ressources en eau et de quantité d'eau, eh bien, il faut, comme on a sur ce plateau, on a identifié des problèmes de pollution qui sont très importants, hein, puisqu'il y a des sites d'eau potable qui ont été supprimés, hein, parce que la pollution était trop importante due au traitement des lavandins en grande partie. Eh bien, il est important de bien identifier le parcours de ces eaux souterraines. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a toute une partie diagnostique qu'il faut bien, bien, bien cerner. Et dans le projet qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est un élément qui est majeur de faire un bon diagnostic pour savoir quels sont les points importants à investiguer, si je peux dire.
Juste pour titre anecdotique, sur le plateau de Valensole, les captages d'eau potable des communes traduisent la qualité des eaux souterraines. Sur Roumoul, Ries, Gréou, on a même des eaux qui sont plutôt profondes, puisqu'elles surgissent à Gréou, elles sortent du plateau, mais assez bas en altitude, et qui sont effectivement bien polluées par le fameux pesticide de la lavande. Quoi.
Voilà. Un autre point qui est intéressant et qui est une particularité de la Durance, c'est que, comme on disait tout à l'heure, donc on est dans la partie amont, on est dans des altitudes élevées. Hein. Dans le bassin versant, par exemple, ben, il y a la barre des écrins qui dépasse 4000 mètres.
4100 mètres, oui.
Hein, 4100 mètres. Et donc, on est dans un domaine où il y a des glaciers. Enfin, il y a encore des glaciers. Et par exemple, le glacier blanc, qui est le plus important, hein, donc il se trouve avec des sommets qui sont tout autour de 4000 mètres, 3500, 4000 mètres. Donc on a ce glacier qui a beaucoup régressé. Hein, il a perdu, par exemple, 10% de son volume depuis 2002, ce qui est quand même très important. Et donc, pourquoi je parle des glaciers, c'est parce que il se trouve qu'en période de sécheresse maximum, on est dans une période, le plus souvent, on est dans une période chaude, hein, c'est-à-dire l'été. Et donc, l'eau de pluie est en faible quantité, il pleut pas beaucoup. Et en revanche, il fait chaud. Ça veut dire que la glace fond. Et donc, la proportion d'eau qui provient du glacier est importante par rapport à l'eau de pluie. Et donc, au fur et à mesure que les glaciers vont fondre, on risque d'avoir un changement assez important de ce qu'on appelle l'étiage, hein, c'est-à-dire le niveau bas d'eau superficielle. On risque d'avoir un changement très important par le fait que ces glaciers, s'ils diminuent beaucoup en volume, et pour ceux qui vont disparaître, on va avoir une plus faible quantité d'eau issue de ces glaciers-là. Et donc, en période de sécheresse, on risque d'avoir un changement important. Il y a de quoi s'inquiéter sur ces périodes de sécheresse et de forte chaleur, qui vont empirer, hein, très fortement.
Ouais. Tout à fait. Ben, les glaciologues sont assez pessimistes sur les glaciers de Loisans, parce que le volume estimé de glace par les glaciologues actuellement représente 1,2 milliard de mètres cubes. Donc, c'est-à-dire, c'est la capacité du lac de Serre-Ponçon s'il était vide. Et donc, compte tenu de la rapidité de fonte, on parle d'une échéance de la disparition des glaciers en 2035 ou 2040. Donc, c'est demain matin. Et effectivement, tu as raison, Gilbert, les débits d'étiage vont être beaucoup plus sévères. Et ça a été le cas en 2022, lors de la sécheresse qu'on a eue, qui était très forte. EDF est obligé de lâcher de l'eau pour les arroser, pour les canaux d'arrosage de la base du Rance. Et donc, il y a une réserve constituée. Et donc, c'est cette réserve, elle doit être utilisée entre le 1er juillet et le 1er octobre. Et en 2022, donc jusque fin septembre, les gens arrosaient avec un débit, je crois, de mémoire, qui était de l'ordre de 50 ou 60 mètres cubes secondes, qui sortait du lac de Serpensan. Et à partir du 1er octobre, EDF, lui, il arrête de mettre l'eau de la réserve et il met uniquement ce qui rentre à l'amont de Serpensan. Et on est passé de 50 mètres cubes secondes à 25. Donc l'étiage naturel était à 25, ce qui était un étiage extrêmement bas. Du fait justement d'abord de la régression des glaciers qui ont beaucoup moins fondu et qui sont restreints, donc il y a beaucoup moins d'eau de fond d'apport, et puis parce qu'on était en sécheresse complète et qu'on n'a pas de précipitation. Donc c'est effectivement un phénomène qui va devenir prégnant. Bon, sachant que aujourd'hui il passe 5 milliards de mètres cubes dans le bassin de Serpensan globalement, et tous usages confondus, et en fait on en consomme aujourd'hui 3, et si demain on n'en a plus que 3,5 ou 4, et ce qui était le cas en 2022, ça va peut-être commencer à être un peu délicat pour satisfaire tous les usages du bassin versant, quoi.
Alors là, on parlait des retenues d'eau, hein, justement. Alors, saisissons l'occasion de parler d'une particularité de la Durance, c'est qu'il y a, il existe des aménagements, des retenues. Serpensan, le Sisteron, l'Escale. Et donc, va se poser un problème relatif, par exemple, au tourisme. On a pris l'habitude de donner de la priorité au tourisme et de maintenir des niveaux de ces retenues importants pour favoriser le tourisme. Et on a vu récemment une période un peu assez délicate, hein, où là, on a été obligé de... Bon, il s'est trouvé que le niveau de Serpensan était très bas, et donc il y a eu une répercussion importante sur l'activité touristique. Bon, il faut rappeler qu'on est dans des régions où le tourisme, sur le plan économique, est quelque chose d'important. Et donc va se poser la question, très, très probablement se poser la question de cette priorité, c'est-à-dire lorsqu'on va être il va falloir faire des choix, très probablement, lorsqu'on a des périodes de sécheresse fortes, qu'est-ce qu'on va privilégier ? Est-ce qu'on va privilégier la ressource en eau ? Il ne faut pas oublier que le bassin de la Durance permet d'alimenter près de 3 millions de personnes sur la côte, avec des grandes villes, hein. Marseille, même Toulon, puisqu'on passe de l'eau de notre bassin, en particulier le Verdon, vers la ville de Toulon. Donc, comment on va gérer tout ça ? Il est vraiment important d'y réfléchir et de se préparer à des scénarios où on aura des problématiques très, très difficiles. Et donc, ce qui paraît nécessaire maintenant, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, et de parler de cet aspect-là, c'est qu'il va falloir anticiper ces problématiques et voir là où on va mettre les priorités dans l'avenir sur les problèmes de ressources en eau.
Voilà, on va faire la pause musicale et je vous propose d'écouter Take Ten de Paul Desmond. Thank you.
Alors oui, on a parlé de la nécessité d'anticiper et de prévoir l'avenir sur la durance. Alors il faut bien avoir en tête qu'on est en présence de différents acteurs et de différents types d'intérêts. Il y a des choses à défendre. Il y a des gens qui sont prêts à défendre leur beefsteak, ce qui est tout à fait normal. Hein. L'eau sert aux agriculteurs, elle sert aux industriels, elle sert aux professionnels du tourisme. Donc chacun va défendre son beefsteak, hein, ce qui est logique. Par contre, le milieu naturel, lui, il ne peut pas défendre son beefsteak tout seul, quoi, hein. Donc il faut que quelqu'un le fasse pour lui. Et le milieu naturel, c'est quelque chose qui est vraiment majeur parce que tous les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure en dépendent. Donc, d'avoir une eau qui n'est pas polluée, qui est abondante, qui est suffisamment abondante, c'est quelque chose qui est majeur pour tout le monde. Et donc, ce milieu naturel, il doit être ce qu'il faut défendre en priorité parce que tout dépend de lui. C'est pour ça que FNE 04 s'intéresse à la question de cette structure sage dont on parle aujourd'hui, parce qu'il faut voir quels sont les points qui sont cruciaux dans cette problématique.
Oui, là, on a affaire à une rivière qui a été fortement aménagée et qui a fortement perturbé les équilibres qui pouvaient préexister depuis, je ne sais pas combien de temps la Durance coule, mais enfin, ça fait un certain nombre d'années. Et du coup, quand on voit effectivement le lit de la Durance aujourd'hui avec donc des zones qui sont parcourues, qui sont extrêmement limitées, les ripisylves qui, dans certains cas, se dessèchent du fait de l'abaissement du niveau de la nappe et autres.
On peut peut-être dire ce qu'est une ripisylve.
Oui, les forêts rivulaires, les forêts qui poussent en bordure ou au milieu du lit, puisqu'on a un lit très large, donc on a des développements de forestiers. Donc au début, c'est des petits arbres ou des plantes, et puis après, ça finit par des arbres de haute taille, type peuplier ou frêne ou autre saule. Voilà, et effectivement, donc c'est un souci constant sur la durance pour essayer de préserver cet espace de naturel, hein, parce que même si la rivière a été artificialisée, son lit demeure et ce sont des couloirs de migration pour les oiseaux, ce sont des zones naturelles qui permettent aux espèces quelles qu'elles soient de bouger, de remonter, de se nourrir et de vivre, quoi. Voilà. Sans les milieux humides, on serait effectivement dans le désert.
Et ce milieu naturel, il est particulièrement intéressant et important à défendre sur le bassin versant de la Durance parce que, justement, comme on a dit tout à l'heure, on a des altitudes qui sont importantes, qui sont très différentes en amont et en aval, hein, avec un fort contraste. On a des climats qui sont différents, hein, avec un climat de montagne d'un côté et des climats méditerranéen sec de l'autre, et donc c'est un couloir où on a une juxtaposition de milieux naturels différents et ce qui crée un environnement particulier qu'il faut bien surveiller avec une vulnérabilité qui est importante, hein, à cause justement de ces contrastes qu'on va voir augmenter au niveau des périodes sèches et des périodes humides.
Oui, tu as raison de le souligner, Gilbert, parce qu'effectivement, on a le climat méditerranéen qui vient se confronter au climat montagnard. Et donc, du coup, ça crée au niveau du bassin versant une mosaïque de milieux extrêmement diversifiés et dans certains cas extrêmement rares. C'est-à-dire qu'on voit du côté de l'Argentière-l'ABC, on peut voir des peuples, dans certaines falaises, on peut voir des peuplements de genévrier oxycèdre, par exemple, bon, qui sont relictuels, alors qu'on va avoir des espèces de climat plus froid qui vont être, par exemple, dans certains versants nord, des montagnes qui sont plus près de Digne ou même de Manosque, quoi. C'est cette richesse, cette confrontation de climats très différents génère effectivement une richesse au niveau du bassin versant qui est quand même assez exceptionnelle, quoi. Voilà. Donc, effectivement, c'est un aspect du SAGE qui va être très important, d'arriver à concilier la politique de gestion de la rivière avec justement la préservation ou la remise en état des milieux.
Alors, en ce qui concerne, donc, peut-être on peut rentrer dans le vif du sujet au niveau, oui, au niveau du SAGE, hein, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de dire pourquoi on a besoin de ce qui se passe en ce moment, dont on parle aujourd'hui, hein, parce que peut-être qu'on s'y perd un peu, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de structures déjà existantes. Hein, il y a ce qu'on appelle des comités de rivière, on a ce qu'on appelle un SDAGE, on a un comité de bassin, on a ce qu'on appelle une CLE, la commission locale de l'eau. Enfin, on a beaucoup de choses comme ça qui existent. Alors pourquoi rajouter ce SAGE?
Alors, en fait, il y a une hiérarchie un petit peu des outils de planification dans le domaine de la politique de l'eau. Donc le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux. C'est un document qui est élaboré à l'échelle du bassin du Rhône, dont on fait partie, et ce schéma directeur, il a pour but d'élaborer des règles de gestion et des objectifs de bon état sur les cours d'eau qui composent effectivement le bassin versant du Rhône. Donc ça, c'est un schéma directeur. Donc après, au niveau des sous-bassins, hein, du Rhône, donc le bassin de la Durance, on a le comité de bassin qui est siège à Lyon, dans lequel sont représentés l'ensemble des élus de la région avec l'ensemble des associations, des intervenants, les pêcheurs, les consommateurs, etc. Donc avec une proportion bien déterminée par la loi. En fait, le comité de bassin a considéré que les problèmes qui sont rencontrés sur le bassin de la Durance nécessitaient d'avoir un focus beaucoup plus précis sur ce bassin pour essayer d'améliorer la situation des milieux, la situation de la ressource en eau, le partage de l'eau et puis la gestion des risques, puisque ce sont les trois volets qui sont qui font partie du SAGE. D'où la mise en place d'abord de la commission locale de l'eau, qui est le parlement local de l'eau, qui va avoir à valider le travail d'élaboration de ce schéma d'aménagement et gestion des eaux, qui doit s'intéresser à l'ensemble du bassin versant. Alors, on a une petite particularité sur la Durance, c'est qu'on a déjà deux schémas de gestion de l'eau des sages, un sur le Verdon et un autre sur le Calavon. Donc, le travail strict d'élaboration du SAGE Durance, il ne va pas s'intéresser au Verdon ou au Calavon, puisqu'il y a déjà des documents en place. Par contre, il va y avoir un travail inter-SAGE, de façon à ce que les objectifs qui ont été élaborés et les actions qui sont prévues dans le cadre des deux SAGE existants soient cohérents avec les objectifs de gestion de l'eau sur le SAGE Durance. Donc il va y avoir un petit travail on appelle ça de l'intercalibration. Enfin bon, c'est un terme technique pour dire qu'on va tâcher de travailler ensemble pour que la politique globale, après, est adapté à l'ensemble du bassin versant.
Et quel est l'ordre de grandeur du calendrier prévu? Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire?
Alors, le calendrier qui est élaboré aujourd'hui, enfin qui a été proposé à la CLE, c'est d'avoir un schéma en 2027. Donc, c'est-à-dire, la commission de locale de l'eau a été instaurée début 2024. En 2024, on a commencé à travailler à travers des commissions, dont je vais parler après. Et le travail de 2025 va être d'élaborer l'état des lieux et le diagnostic, de façon à ce que fin 2025, on puisse avoir un état des lieux partagé par l'ensemble des membres de la CLE, de façon à pouvoir travailler en 2026 sur les objectifs de gestion, donc les mesures réelles de gestion qui vont pouvoir après se décliner en actions concrètes dans les collectivités ou auprès des acteurs. Et après, il y a une phase d'approbation. Alors, bon, c'est des procédures qui sont un peu longues, mais bon, en gros, en 2027, on devrait pouvoir, si le calendrier est tenu, on devrait pouvoir avoir le SAGE en fin d'année. Voilà, à peu près le calendrier. Alors, c'est un calendrier extrêmement optimiste, parce que pour avoir travaillé sur le SAGE Verdon, on a mis 12 ans pour l'élaborer et le faire approuver. Donc vouloir faire ça en 3 ou 4 ans, ça me paraît un peu optimiste. Mais bon, il faut essayer, on verra bien si on y arrive.
Là où il faut peut-être faire attention, c'est qu'on n'ait pas des aspects importants qui soient bâclés. C'est-à-dire, effectivement, c'est impressionnant de voir qu'on a visé un calendrier aussi serré, quoi, parce que quand même, la partie diagnostic, c'est quelque chose qui est majeur, hein, donc il ne faut pas se louper, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une période un peu compliquée où les choses évoluent dans le temps assez vite. On se retrouve avec des périodes difficiles, par exemple, de sécheresse. Hein. Et donc, les diagnostics ne sont pas si faciles que ça à faire parce qu'on ne sait pas... Il y en a une partie qui est inconnue, qui est pas négligeable. Hein. Et donc, on est quand même dans une phase où il se passe des choses... qu'on n'a pas vécu dans le passé. Et donc, ces diagnostics, ils peuvent être remis en question dans les années qui viennent. Donc, on peut se demander si cette période de diagnostic de seulement une année est quelque chose de suffisant.
Alors, oui, le calendrier est serré, c'est vrai, mais en fait, on ne part pas de rien. C'est-à-dire que sur la Durance, il y a déjà eu des documents, des études complètes qui ont été faites dans les années passées, très récemment. L'Agence de l'eau, à travers le suivi de l'état des eaux, a quand même une très bonne photographie de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, la réflexion qui est portée par la CLÉ, en fait, elle s'appuie sur quatre commissions. D'habitude, on en a trois, là, on en a quatre. Donc, il y a une commission qui va s'intéresser à l'eau, donc eau et les eaux, l'eau et les usages, donc pour travailler effectivement sur la quantité, et puis qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut en améliorer l'usage, hein, justement. Et puis éventuellement prioriser des leviers d'adaptation qui soient assez efficaces. En fait, le SMAVD a développé un outil qui s'appelle les C3PO. Alors ne me demandez pas...
SMAVD ?
Le SMAVD, le syndicat mixte d'aménagement de la Durance, qui est en fait le service technique qui travaille derrière pour élaborer les documents. Documents qui après sont travaillés par les membres de la CLÉ dans les commissions. Alors entre les deux, il y a des groupes techniques qui regroupent des bureaux d'études, des spécialistes de thématiques, etc. Mais donc, en travaillant sur les usages, il y a effectivement ce que tu viens de souligner, qui est effectivement l'adaptation au changement climatique. Donc la spécificité de la réflexion sur la Durance, c'est qu'on a une commission d'adaptation au changement climatique qui est là pour... recenser, valoriser et éventuellement développer des actions d'aménagement au changement climatique qu'on peut faire tout de suite. Par exemple, quand on dit qu'on va faire des économies d'eau sur un canal d'irrigation, bon ben ça, on peut le faire tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre les résultats du SAGE. Et donc, il y a un certain nombre d'actions comme ça qui n'engagent pas l'avenir, qui sont positives pour la gestion de la ressource en eau, qu'on peut faire tout de suite. Voilà. Alors, donc, je disais, il y avait quatre commissions. Donc, il y a la commission eau à usage, il y a la commission milieu et inondation. Et donc, là, on regroupe milieu et inondation, parce que l'inondation, pour la faire passer, il faut un lit qui soit large, et ce lit, ben, il faut qu'il soit libre, et donc c'est sur des milieux naturels qu'on doit laisser à la rivière pour qu'elle puisse vivre, etc. Bon, la troisième commission, c'est ce qu'on appelle la commission connaissance et communication, c'est-à-dire que c'est très important de capitaliser sur toutes les données disponibles, et il y a un endroit, il faut qu'on ait quelqu'un qui ramasse tout ça. J'ose pas utiliser le terme de concaténer parce que je me fais condamner à chaque fois. Donc voilà. Et donc, il y a un observatoire de l'eau qui devrait être mis en place au sein du syndicat accessible à tous pour effectivement pouvoir diffuser la connaissance. Et donc, après, la quatrième commission, c'est l'aménagement au changement climatique. Et moi, ce qui me fait souci dans le calendrier qu'on a, c'est la consultation du citoyen. Et donc, FNEPACA s'est positionné sur ce créneau-là. Les élus qui pilotent à la fois le syndicat mixte et puis qui sont donc majoritaires au sein de la CLÉ n'ont pas envie d'engager des démarches de concertation. Voilà. Donc, c'est pour moi un travers de la méthode.
Alors, c'est peut-être important de dire comment se composent les... Est-ce qu'il y a des collèges de différents types de membres, des élus, etc., des services de l'État, oui, des usagers? C'est peut-être important, justement, dans cette démarche, de voir là où il y a une possibilité de te rejoindre, hein, c'est-à-dire de voir comment le public, comment la population, comment les intéressés sont associés à cette affaire.
Alors, la commission locale de l'eau, là, donc de la Durance, on est 106. Donc 106 personnes réunies dans une salle, c'est pas facile et il faut de la discipline parce que sinon les noms d'oiseaux volent vite et donc c'est pas très productif. Voilà. Donc la composition officielle, et donc il doit y avoir la majorité, donc 50% ou 51%, il faut que la majorité ça soit des élus. Voilà, donc sur 106, on a 53 élus qui sont... Et le président, là, dans le cas particulier, c'est une présidente. Donc le président de la clé, c'est forcément un élu. Et donc, dans le cas particulier, c'est madame la présidente, c'est madame Magnan, qui est élue chargée de l'environnement sur la commune de Manosque. Voilà. Et après, le reste de l'autre moitié est composé alors avec les services de l'État, les usagers... Dans les usagers, on a les usagers, les consommateurs, on a les défenseurs de l'environnement, on a des pêcheurs, on a FNE04, voilà. Et bon, c'est vrai que sur les 50, il y a aussi des agriculteurs, puisque la Chambre d'agriculture, c'est des gros consommateurs. Donc, effectivement, on a EDF, on a le Canal de Provence, enfin, tous ces gens-là sont à la clé. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour les citoyens lambda et les associations. Donc, en fait, à la clé, on a deux personnes de FNE PACA. Donc, il y a un membre de FNE PACA, parce qu'on a un groupe haut à l'FNE PACA. Donc, moi, je représente FNE PACA. Et on a une autre voix, qui est donc Bernard Patin, qui est au titre des départements 04 et 05, qui sont les plus gros contributeurs en matière d'eau au niveau du bassin versant. C'est tout bête, mais c'est comme ça, voilà. Et puis, on a les pêcheurs qui sont là. Donc, on a la fédération régionale, on a une association régionale des fédérations de pêche. Et puis, on a plusieurs représentants. Et puis, on a les agriculteurs qui sont nombreux. On a EDF en tant qu'utilisateur de l'eau. On a le Canal de Provence en tant qu'utilisateur de l'eau. Voilà. Donc, tout ça, ça fait une assemblée à 106. Alors, ça, c'est la commission locale. Et la commission locale, elle s'appuie sur le travail de commission thématiques qui n'ont pas de formalisation officielle. Donc, aux commissions thématiques, tout le monde... enfin. Les gens de la commission locale de l'eau doivent venir parce que bon, le SMAVD et la présidente tiennent à ce que les gens soient assidus. C'est ouvert à tous les membres de la clé et c'est ouvert aussi à d'autres spécialistes. Donc ça veut dire que si la Fédération de pêche veut faire intervenir un sachant hydrobiologiste, il peut faire venir quelqu'un de plus à la commission qui l'intéresse, quoi. Voilà, donc il n'y a pas assez... C'est très ouvert. Donc on fonctionne avec des commissions qui sont à 50, 60, 70 personnes, ce qui complexifie aussi le travail, parce que les gens, ils veulent tous faire valoir leur point de vue, ce qui est normal, mais on n'a pas souvent pas assez de temps, et donc, du coup, les débats sont un peu directifs, quoi. Et ça, ça manque aussi un débat plus large.
Alors, on a dit tout à l'heure que on avait une des particularités de ce... bassin versant et de cette ressource en eau de la Durance, c'était qu'on exportait de l'eau au-delà du bassin en partie, hein, mais surtout il y a une problématique particulière, c'est que on a une population qui est très importante en aval et donc on doit faire en sorte que les gens qui sont cette population qui est urbaine bénéficient de cette ressource en eau, mais il faut à la fois que les habitants qui sont en amont ne soient pas trop que la ressource en eau en amont soit assurée également. Donc comment va se faire cette répartition oui des usagers en amont, en aval, où les problématiques sont un petit peu, sont quand même assez différentes.
Eh bien, c'est la question. Voilà. Et moi, j'ai déjà posé la question parce que je l'ai posé officiellement en clé. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les usages de l'eau, ils sont tous encadrés sur le plan réglementaire. C'est-à-dire que, alors, on a trois types de prélèvements. On a des prélèvements qui datent d'avant la Révolution. C'est le cas des gros canaux de basse Durance, puisqu'il y en a un qui date de 1180, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais.
On peut peut-être parler des canaux, justement, oui. Parce que peut-être les gens ne savent pas bien quels sont les canaux, ils vont où, ils vont partir à quoi,
alors,
etc.
Je pense que la Provence, dont le nom vient, je pense, de la province romaine, hein, je pense que la culture de l'eau, elle n'est pas d'aujourd'hui en Provence. Voilà. Et comme on avait des zones très sèches à l'aval, donc la Provence est assez sèche, et qu'on avait beaucoup d'eau à l'amont, les gens, ils ont pris l'eau là où elle était, c'est-à-dire dans la Durance. Ils l'ont emmenée par des... Donc, dans le département 04, par exemple, à la fin du 19e, donc au début du 20e, on avait 1100 canaux dans le département. Bon, et tout le département était pareil. Les gens avaient besoin d'eau pour les cultures, pour manger. Et donc, depuis très longtemps, il y a des canaux qui ont été faits pour transporter. Alors, il y avait le transport de l'eau pour les usages énergétiques, c'est-à-dire qu'il y a les moulins, parce qu'il fallait manger, donc il fallait avoir des moulins, la force hydraulique, ou alors des moulins qui servaient pour les usines. Hein. Il y avait des drapiers, il y avait des choses comme ça dans le long de ces canaux. Et puis après, pour l'irrigation, puisque bon, toute la base du Rhin est quadrillée par des très gros canaux. Bon, le plus ancien, c'est le canal de Carpentras, qui date, je vous dis, du 12e. Mais on a la même chose de l'autre côté avec des canaux qui basculent et qui vont aujourd'hui alimenter la Croix, par exemple. Hein. Et puis, un des plus récents, c'est le canal de Marseille, qui alimente la commune de Marseille. Et dans Moyenne Durance, on a deux gros canaux. C'est le canal de Manosque, qui prend l'eau donc, au barrage de l'Escale et qui l'emmène jusqu'à Sainte-Tulle et Corbières. Et puis, on a le canal de la Brianne, qui est un canal beaucoup plus ancien, dont la première version datait du 15e, et qui est donc a retrouvé une nouvelle vie à partir de 1837, je crois, ou 40. Et donc, c'est le tracé actuel qui prend l'eau sous le pont canal et qui l'emmène jusqu'à dans les plaines de Sainte-Tulle. Voilà. Mais donc, effectivement, il y a, depuis très très longtemps, il y a l'usage de l'eau. Et comment dire, c'est des canaux, effectivement, qui transportent de gros volumes d'eau. Alors, je rebondis là-dessus, parce qu'effectivement, les usages de l'eau devraient être encadrés par des actes administratifs. Et aujourd'hui, si on doit réduire les débits, lequel on met en priorité? Alors, sur un plan strictement du droit, c'est les autorisations les plus anciennes qui priment sur les autres. Mais si on veut parler du multi-usage et de l'équilibre de la vie autour de la Durance, il va bien falloir prendre en compte, par exemple, l'usage touristique. Même si, effectivement, les aménagements doivent être modifiés pour tenir compte de l'abaissement du niveau de Serre-Ponçon ou du niveau de Sainte-Croix, on ne va pas pouvoir dire ben, l'eau elle va toute à l'agriculture ou bien elle va toute à l'eau potable, encore que l'eau potable, c'est la priorité. Mais ce que je veux dire, c'est que les volumes qui sont en jeu font qu'il faut qu'on adapte ben, effectivement, nos usages. Et ça, c'est la question centrale du SAGE.
Oui, donc on ne peut pas rester sur un statu quo, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire évoluer les choses. Voilà. Et c'est là toute l'importance de ce qui va se passer.
Tout à fait. Hein? Tout à fait. D'accord. Et il y a une étude juridique qui va être engagée dans le cadre du SAGE, là, sous la maîtrise d'ouvrage du SMAVD, sur justement comment faire sur le plan juridique pour se sortir de cette situation. Parce que quand on discute et que la situation n'est pas due, tout va bien. Mais il y a un jour, la commune de Marseille, qui fait partie de la clé parce qu'elle a des communes qui sont dans le périmètre de la Durance, a dit « Mais moi, j'ai fait beaucoup d'économies. Et j'ai droit à 3 mètres cubes secondes et j'en prends qu'un. » Alors, donc, et ça, c'est un droit qui... Alors, ça, c'est un droit normal. Donc, c'est le régime commun. Donc, on peut toujours le modifier. Mais donc, on voit sortir déjà les arguties juridiques. Alors qu'on n'a pas encore commencé la réflexion. Donc, quand on va être dans le dur, qu'il va falloir diminuer les débits, parce que le débit de la commission... Enfin, de la structure qui regroupe tous les canaux de base Durance... À l'aval de Cadarache, il y a une structure qui gère tous les débits d'eau. C'est 114 mètres cubes secondes le débit auquel ils ont droit. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on l'a dans la Durance, en mettant toute l'eau. Voilà. Donc voilà, le nœud, c'est ça.
Oui, et pas oublier qu'on a un problème de... En ce qui concerne le milieu naturel, on a un problème de maintien de certains débits dans la rivière. Hein. Et donc, nous, FNE, on est particulièrement intéressés pour défendre... Ce genre de choses.
Oui, c'est-à-dire que nous, on demande à ce que soit appliquée la hiérarchie des usages, la hiérarchie qui est contenue dans les textes. C'est-à-dire d'abord l'eau potable, après l'eau pour les milieux, et puis après le reste. Voilà. Et quand on dit ça à la commission locale de l'eau, ça grince un peu.
Ah, donc il faut parler fort et il faut se faire entendre.
Mais c'est pour ça que, comment dire, dans le cadre de la préparation du SAGE, a été engagé ce projet Durance 360 degrés qui permet d'avoir un film, qui permet d'avoir une exposition et qui permet de faire des projections avec des débats. Et moi, je pense que c'est important de pouvoir faire des débats un peu partout dans le bassin versant pour recueillir la parole des gens et puis les informer de ce qui se passe et voilà, que ça ne tombe pas du ciel comme une nouvelle contrainte et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient.
Tu peux en parler justement de ce problème de communication, de ce que FNE est déjà fait, est en train de faire.
Et bien justement, donc, dans le cadre de ce partenariat qui a été passé avec les intervenants autour du SAGE, donc, il a été décidé de faire un film sur la Durance. Donc, c'est le film qui s'appelle Durance 360 degrés. Donc en même temps, il y a une exposition itinérante qui est une espèce de cube dans lequel on peut projeter le film et qui est aussi équipé de tablettes sur lesquelles les gens peuvent regarder le film ou intervenir, parce que c'est un web documentaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois un film et à la fois des documentaires associés. Et donc du coup, ce cube, il peut être posé dans un lieu public où les gens viennent, consultent le film, regardent, et nous, on peut faire des animations autour. C'est ce qu'on a fait au lycée des Iscles, là. On a amené le cube et resté pendant 15 jours. Et on est allé faire des projections commentées. On a répondu aux questions de façon à sensibiliser les gens. Voilà. Et on peut le faire n'importe où. C'est-à-dire, c'est pas spécifique aux établissements. L'année passée, il était resté à l'IUT. Pareil, on a eu une projection débat avec les étudiants de l'IUT qui avait été très, très intéressant, d'ailleurs. Donc FNE reste à disposition des gens pour éventuellement faire des projections dans une commune. Moi, j'en ai fait une à Thouars. Ça peut être dans n'importe quelle commune. Si un des bénévoles est disponible, on peut venir faire un débat sur le thème Durance.
Il y a un aspect dont on n'a pas trop parlé, c'est le fait que le long de la Durance, il y a l'énergie qui est produite. Mmh. Et donc, l'énergie, c'est quelque chose qui est aussi en développement, en évolution. Comment ce risque de se passer l'avenir ? Parce que, par exemple, la production d'hydroélectricité à partir des barrages risque de ne pas se faire de la même manière à l'avenir, hein. C'est-à-dire qu'en fonction des priorités, on va faire de l'électricité ou ne pas en faire. En fonction des problématiques énergétiques globales du pays ou de l'Europe, puisque il y a beaucoup de choses qui sont mises en commun, on va avoir à prendre des décisions et donc en période de sécheresse, on va être obligé de modifier nos habitudes. Il y a des projets, par exemple, le projet de production d'hydrogène qui nous concerne, hein, puisqu'il y a un gros projet qui est en cours d'élaboration. Comment est-ce que les choses risquent de se passer ? Quelles sont les problématiques qui se posent de ce point de vue ?
Le problème principal... Le problème principal, c'est la diminution de la ressource en eau. On nous annonce moins 10% en 2030 ou 2035, enfin peut-être 2040, et on nous annonce moins 20% à l'échelle de 2100. Donc c'est sûr que la répartition des précipitations et leur diminution vont parler dans le sens d'une augmentation de la production d'énergie hydroélectrique, quoi. Ça, c'est sûr. Et EDF en est conscient. Hein. Ils font régulièrement des... je parle en connaissance de cause. Là. Ils font régulièrement des révisions des productibles dans les bassins versants. Et toutes les petites centrales électriques qu'ils ont dans les hauts bassins, qui sont des petites concessions qu'EDF avait construites au début du 20e siècle, en fait, elles sont toutes aujourd'hui dans un état qui est compliqué. Quoi, parce qu'en fait, elles deviennent de moins en moins rentables parce qu'il y a moins en moins d'eau. Mais il faut rester optimiste. On va y arriver.
Il y a un agenda à donner avant de finir.
Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a fini fin 2024 sur le calendrier était validé. Les commissions commencent à travailler. L'état des lieux commence à être travaillé, puisque j'en ai reçu une partie pour relecture. Enfin, moi, je suis marginal dans le système. Hein, j'y suis parce que je connais la Durance depuis longtemps, mais je ne fais pas partie des personnalités qui vont rédiger l'état des lieux. Mais bon, oui, ça avance. Je pense que le calendrier de l'état des lieux en fin d'année, on devrait l'avoir, 2025. Donc on en reparlera à l'automne 2025, on fera un point. Peut-être même avec le SMAVD, si j'arrive à trouver quelqu'un, parce qu'ils sont très occupés. Et je voulais venir avec eux, mais on n'a pas trouvé le temps jusqu'à maintenant. Voilà, merci beaucoup.
Merci, merci. Pierre Gotardi et Gilbert Ferraud pour ces bons éclairages. Bonne journée, au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir et merci beaucoup.
Merci. Summer.
time and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's real rich and your mama's good looking. So go on, hush, little baby. There ain't no need to cry. Standing by.